BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et bienvenue pour cette deuxième heure de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, en podcast. Et évidemment, deuxième heure de TPI, ça signifie grosse page immobilier avec Marie Cœur de Roy. Et on sera aussi avec Steven Briand du pôle immobilier de Net Investissement. Tout à l'heure, Romain Joudelat, cofondateur de Colbert, répondra à toutes vos questions. On parlera évidemment un petit peu crypto avec Amaury de Tonquédec qui nous rejoindra en fin de tranche. Et puis, bien sûr, vous avez la parole tout au long de l'émission. Vous nous joignez par mail direct à bfmbusiness.fr. LinkedIn aussi, vous écrivez sur la boîte privée de Lorraine Goumeau. Elle répondra aussi à vos questions. Puis vous pouvez nous envoyer un SMS au 73216. Posez votre question et juste avant, vous mettez le mot-clé business. Allez, tout de suite, on part à Euronext rejoindre Aude Kersulec. Aude Kersulec, on a retrouvé, on avait eu des petits problèmes en première heure. Plus 0,23% pour le CAC 40. Bon, on est toujours sur une tendance positive, mais pas trop de conviction. On est à 7679 points en ce moment.
Là, on avait récupéré les 7700 à l'ouverture et comme quoi le rebond du matin s'essouffle déjà parce que c'est vrai que ça allait quand même bien hier du côté de Wall Street grâce à Nvidia. Ça allait bien ce matin aussi du côté du Japon avec les valeurs semi-conducteurs qui remontaient et qui faisaient monter le Nikkei de plus de 1%. On pensait quand même avoir ça aussi du côté de l'Europe. Bah, c'est pas tellement ça. Alors, on a les valeurs tech parisiennes qui sont du bon côté du tableau, Dassault Systèmes qui prend 1,1%, Capgemini qui prend également 1%, tout comme Téléperformance, mais c'est pas suffisant pour drainer l'indice. Le luxe est peut-être pas encore assez présent, même si Hermès ou Kering prennent seulement 0,4%. Donc ça reste encore trop incertain. Et puis aussi, c'est vrai, il y a eu un oiseau de mauvais augure ce matin qui est venu de loin, qui est venu d'Australie. C'était l'inflation australienne qui était plus forte qu'espérée. Alors de 2 dixièmes, pas de beaucoup, mais en tout cas ça a suffi là-bas pour faire reparler, non pas éloigner les baisses de taux, mais même reparler de hausse de taux. Donc c'est sûr que ça a amené un élan plutôt négatif qui pourrait se répercuter sur Wall Street aussi dans la journée, parce que vous savez qu'on attend en fin de semaine l'inflation américaine, l'indice PCE qui devrait sortir vendredi, et qu'en attendant on évolue un peu sur des œufs en faisant attention un petit peu à tout ce qui bouge. Alors tout ce qui bouge, c'est vrai qu'en France, c'est aussi beaucoup tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être aussi industriel. On l'a vu hier avec Airbus qui avait beaucoup pesé sur l'indice. Airbus qui se reprend aujourd'hui après avoir perdu 9%. On est à plus 0,9%. Et puis, du côté du SBF 120, on n'a pas de très forte hausse ni de très forte baisse. À signaler d'ailleurs que Atos avait ouvert en très forte baisse et que finalement, ça a semblé s'équilibrer après les nouvelles du matin. Donc, David Lagnani qui abandonne et Daniel Kretinsky qui veut revenir dans le jeu, donc peut-être que ça rassure les investisseurs et finalement pas de grosse catastrophe. Voilà, donc on peut regarder aussi ce qui se passe sur l'obligataire avec le spread OAT Bonds qui est toujours stable à 70 points de base, tout juste encore 3,13% pour le 10 ans français, et l'euro dollar qui vaut 1,0698, tout juste passé sous les 1,07$. Donc le CAC 40 qui monte pas tout doucement de 0,2% et 7680 points, Antoine.
Allez, tout de suite, on passe à votre histoire. Aude, on vous retrouve tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
Et donc, votre histoire, les cryptos et les candidats à l'élection législative. On entend très peu parler de crypto, on entend beaucoup plus du côté des États-Unis, bien évidemment, mais le sujet est remarquablement absent de la campagne électorale.
Ouais, c'est sûr, on peut pas dire que ça a émergé dans le débat, par exemple le débat d'hier, non, pas du tout, mais on va quand même faire un tour d'horizon de ce que pensent les principaux partis. Alors par exemple, on peut commencer par la France Insoumise. Donc ce ne sont pas des amis des crypto-monnaies. Pour eux, ce sont des outils de spéculation, donc à encadrer fortement et puis à imposer s'il y a des plus-values. Ça favorise pas en clair l'émancipation des populations et en plus ça profite aux plus riches. bridge, donc crypto, marché financier pour LFI, c'est un peu le même combat et ça n'est pas forcément conseillé. Pour le RN, l'autre extrême, c'est comme souvent pour ce parti, c'est quand même un petit peu flou pour savoir ce qu'ils en pensent vraiment. Alors le parti voit quand même les cryptos comme un moyen potentiel de contourner les systèmes financiers traditionnels, donc aussi les élites mondialisées. Donc ce côté populiste, forcément il plaît un petit peu à ce parti là mais en même temps les cryptos, ça veut aussi dire la criminalité, et donc il faudrait aussi les encadrer et les réguler, mais c'est pas du tout présent dans le programme actuel en ce moment du Rassemblement National. C'est d'ailleurs pareil chez les Républicains, il y a quand même d'autres préoccupations pour eux en ce moment. Alors pour le parti présidentiel, les cryptos, on en parle un petit peu plus, même s'il y a un changement peut-être de mentalité depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, où on parlait davantage de réguler ces crypto-monnaies. Alors ce qui est vrai, c'est que MiCA est passé par là, le règlement européen, donc l'Europe a déjà régulé, et maintenant ce qu'on peut lire dans le programme d'ensemble, donc de la majorité présidentielle, c'est qu'il est question de développer les usages de la blockchain et des actifs numériques, donc à signaler quand même. C'est vrai qu'on ne parle pas de crypto-monnaie à proprement parler, mais d'actifs numériques. Donc voilà, petit sujet sur la dénomination.
Merci Aude, on vous retrouve à midi dans BFM Business avec vous pour un prochain point sur la bourse. Et bien sûr, on va commencer notre grosse page immobilier dans TPI. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier maison. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et avec nous, Steven Briand, du pôle immobilier de Net Investissement.
Tout à fait, bonjour Antoine. Bonjour.
Alors,
Marie.
Salut.
Les thématiques du moment, bon évidemment, tout est centré autour de l'actualité politique de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les grandes thématiques qui...
Alors déjà, nous, on va faire notre match avec Steven, mais d'ailleurs, j'aimerais bien relancer un peu le sujet. Et peut-être Steven pourrait... Je le prends un peu par surprise, là, au démarrage de
Allez.
Cette émission.
Tiens, paf.
J'ai un petit coup de gueule, alors je sais que je me permets de le faire parce que je suis à l'antenne et voilà, sur l'absence ou le peu de présence de ces questions du logement au cœur de cette campagne, bien qu'il y ait des mesures quand même éparses des trois blocs majoritaires aujourd'hui. Le sujet quand même logement et notre manière de regarder localement pour qui on vote en fonction de notre logement. Je pense que ce serait intéressant un jour qu'on se penche là-dessus, Steven, je ne sais pas si on a la capacité de le faire, de voir où votent les gens en fonction de la qualité de leur logement et de leur capacité à trouver un logement abordable et de bonne qualité. Je pense notamment évidemment aux performances énergétiques de nos logements.
Bien sûr, ouais.
Mais ça sera un vrai sujet parce qu'à un moment donné, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le logement, c'est votre principal poste de dépense, que vous soyez locataire ou propriétaire avec des remboursements de mensualité de crédit. Ça pèse parfois 50% de vos revenus. Et donc on en parle un peu trop peu. On rappelle que de notre logement dépend beaucoup de choses, notre sécurité dans l'endroit où on vit.
Le besoin primaire, le besoin de se loger.
Exactement. L'éducation des enfants, la capacité d'avoir une chambre pour chacun de nos enfants, avec un bureau pour travailler, les cohabitations subies, que ce soit des violences psychologiques ou des violences physiques. Donc à un moment donné, s'il y a deux, trois élus qui nous écoutent, qui se posent la question de savoir pour qui voterait votre électorat s'ils étaient bien logés. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'analyse à faire qui va être assez long, mais on pourra en effet s'y pencher sur un prochain match, de voir en effet quel impact il peut y avoir d'un point de vue politique sur le logement. Mais c'est vrai que ce coup de gueule, on le comprend, Marie, puisqu'il n'y a pas eu réellement, je dirais, de débat sérieux, en tout cas et concret, sur la politique du logement en France.
C'est-à-dire qu'il y a des choses dans les programmes, mais c'est vrai que dans les émissions de débat qu'on peut regarder... Là, vraiment, on a. Et puis, alors, c'est vrai qu'on a ce vieux cliché dont vous parlez tout le temps, Marie, mais qui reste quand même d'actualité, cette considération de un maire qui construit, c'est un maire qui perd les élections.
Plus aujourd'hui, à mon avis.
Et voilà. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Faudrait revoir tout ça. Parce que, a priori, au niveau local, au niveau de toutes les initiatives dont on parle tout le temps, d'habitat mixte, de solutions un petit peu innovantes pour se loger, là, il y a franchement des arguments pour se faire élire. Là,
Juste d'un mot, parce qu'après on va m'accuser de faire le jeu de certains ou pas. Je rappelle les principales mesures des trois blocs en présence. Donc on a l'extrême droite qui, elle, propose une espèce de prêt à taux zéro de 100 000 euros pour les jeunes couples qui pourraient potentiellement devenir partiellement un don à la naissance d'un troisième enfant. Donc donc vous n'auriez à rembourser que 40% de ce PTZ de 200 000 euros. Voilà pour le RN. Du côté de Gabriel Attal et de la majorité sortante, on a une proposition d'une suppression des frais de notaire pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. On rappelle que quand on parle de frais de notaire, là, on parle exclusivement des droits de mutation à titre onéreux, donc oui, de la barre qui va aux collectivités locales. Et puis, du côté de la gauche et du nouveau Front populaire, on a là aussi la promesse d'un renforcement du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour l'achat dans le neuf comme dans l'ancien. On n'a pas de chiffrage précis ni les conditions de ressources. En revanche, sur le marché locatif, je tiens à insister là-dessus, on est sur une crise historique du marché locatif. On n'a rien ou peu du côté du RN, à part une remise en cause des calendriers pour les passoires thermiques. Rien du tout du côté de la majorité sortante. Et pour le coup, en dépit de toutes mes opinions politiques, on a pas mal de propositions du côté de la gauche, avec une hausse des APL de 10%, un encadrement des loyers partout dans les zones tendues, une garantie universelle des loyers qui serait plus concernante que Visale, qui est déjà très importante, hein, la garantie universelle des loyers qui se substituerait à Visale et qui permet d'avoir une garantie contre les impayés de loyers pour les propriétaires, mais là elle ne concerne qu'une partie des locataires. Cette garantie universelle concernerait tout le monde. Donc voilà, voilà, vous faites votre marché sur tout ce qui se passe. Mais je voulais vous donner à peu près toutes les propositions sur ce secteur.
Voilà, encore une fois, ils font pas trop de pub autour, et c'est vrai que c'est intéressant.
Surtout par les temps qui courent, on parle d'une crise de logement, mais en effet, c'est assez inédit et personne n'a l'air de s'en soucier. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on part sur des choses peut-être un peu plus...
Mais oui, et en plus, on fait des matchs plus... avec
voilà.
Stéphane.
Et oui,
fait des
matchs. C'est vos fameux matchs, là.
Mais oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui,
alors,
Stéphane?
Aujourd'hui, l'idée, c'était quand même qu'on parte sur un ton un peu plus léger, qu'on parle un peu de vacances. Ça y est, l'été revient. On va tous s'interroger, alors j'espère que c'est déjà fait, mais en tout cas sur nos destinations durant cette période estivale. Il y a quand même deux régions qui ressortent souvent et assez bien, qui sont assez plébiscitées par les Français. C'est quand même la Bretagne, pour chercher un peu de fraîcheur et surtout des paysages authentiques. Et ensuite, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour rechercher un cadre un peu différent et d'idylle, ces plages de sable fin, voilà. Et cuir en effet avec de fortes chaleurs. Donc je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant ces destinations touristiques par excellence, mais surtout de se dire et de s'interroger, est-ce que, et c'est les questions que mes clients me posent régulièrement, est-ce que finalement ma destination que j'aime avec ma famille, est-ce que ça ferait sens en termes d'investissement immobilier? Et c'est souvent une question qui est souvent posée, et on le verra, c'est pas forcément la bonne des réponses, puisque on va mêler un peu de l'affectif avec finalement de l'immobilier sur une notion plutôt quand même financière en termes de rendement. Donc les deux généralement sont assez compliqués, mais on le verra au cas par cas. Il y a quand même de belles opportunités.
On commence par quelle ville?
On va commencer par Vannes. Je suis breton, donc autant en profiter. Vous connaissez sans doute, j'imagine très bien tous les deux. Je ne sais pas si on démarre tout de suite peut-être par les notes. On annonce le résultat, on le fait à la fin.
Moi j'aime bien qu'on le fasse à la fin, comme ça on peut essayer de faire des paris.
Comme ça on raconte l'histoire.
De ces deux villes, et on voit ensuite le résultat et on en discute
alors
ensemble.
Alors les atouts de Vannes déjà, les atouts.
Déjà forcément, on va parler un petit peu du paysage du Morbihan qui est juste exceptionnel. Voilà, c'est un cadre de vie, c'est des remparts médiévaux, c'est son port pittoresque et ses maisons à calembages. Donc il y a quand même...
Un club de rugby qui va se retrouver en top 14.
J'ai vu ça.
Attention.
J'ai vu ça, j'allais quand même parler de la
Le prisme mais... d'Antoine.
Mais non, mais attends, c'est des touristes, c'est des gros matchs, ça veut dire on va agrandir le stade, on va accueillir plus de gens. Voilà, c'est le premier gros club breton dans l'élite du rugby.
Et surtout, qui tombe à Vannes, qui est quand même l'une des villes touristiques par excellence. C'est quand même 3 millions de visiteurs chaque année. C'est quand même une ville quand même assez importante.
Hein, 3 millions de visiteurs
chaque année.
Pour combien finalement de locaux?
On a 53 000 habitants.
Ouais.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Donc il y a. Et de toute façon, voilà, c'est à la fois l'un des points forts, mais l'un des désavantages de Vannes. Voilà, sa principale richesse économique est quand même très orientée sur le tourisme. On verra, il y a quand même d'autres secteurs comme l'industrie ou encore l'agroalimentaire. On a ENAF notamment qui est présent, mais ça reste quand même très limité. Et on a quand même une dépendance quand même assez soutenue, assez importante vis-à-vis du tourisme. Donc ça, c'est quand même un point fort. Est-ce que véritablement le marché locatif peut être intéressant sur de l'immobilier classique, hein? Je parle sur un bail classique de 3 ans.
Oui, parce que c'est ça le sujet. Hein.
Le sujet est là. Et on a un taux de propriétaires qui est quand même supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement,
Parce que les prix sont comment à Vannes, justement?
Les prix sont quand même assez attractifs si on se compare et si on se réfère notamment à Rennes ou encore à Nantes. On est globalement à 3600, 3800 euros du mètre carré. Donc ça reste quand même pertinent. On va dépasser les 4000 euros du mètre carré pour une maison.
Ouais.
Là aussi, où on peut s'interroger sur le plafond de verre de Vannes, c'est en termes d'évolution des prix. Si on regarde là au cours des 5 dernières années, ça a été plus 35% pour un appartement. Plus 50% pour une maison. Si on regarde au cours des 10 dernières années, c'est plus 80% pour une maison. C'est quasiment plus 60% pour un appartement.
Ah ouais, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi?
Justement. Et on le verra sur les notes. Je pense qu'à mon avis, on arrive peut-être pas sur un plafond de verre, mais sur peut-être une limite. Puisque voilà, malgré l'attrait touristique, je pense pas que les prix vont encore, en tout cas, se développer, en tout cas augmenter.
Et puis il y a l'enjeu économique et de transport, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, comme vous parliez, Stéphane, du fait que c'était une ville quand même essentiellement touristique, mm-hmm. est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie, de travailleurs, est-ce que c'est beaucoup de télétravail, et donc du coup, est-ce que les transports, est-ce que le train, est-ce que, enfin voilà, comment ça se passe?
Alors, ça reste une ENAF, le télétravail, on peut pas fabriquer le pâté de chez soi.
C'est compliqué. Oui. Mais voilà, l'agroalimentaire est quand même bien représenté. On a des secteurs du tertiaire. On a le tourisme sur lequel on ne peut pas géolocaliser finalement l'ensemble des salariés et l'ensemble des travailleurs qui sont liés au tourisme. Donc il y a quand même une économie locale qui est amenée à rester. C'est une ville qui est connectée. On a quand même la présence de la gare TGV qui amène à 2h30 à la capitale. C'est 1h pour Rennes, 4h pour Bordeaux. On a un réseau de bus qui s'est bien développé. Mais voilà, ça reste, je dirais, cantonné à principalement la gare TGV qui d'ailleurs va se transformer en un véritable pôle d'échange multimodal à horizon fin 2024 pour devenir un vrai hub et connecter, je dirais, l'ensemble des modes de transport. Mais ça reste cantonné, je dirais, à une gare TGV.
Alors traditionnellement, après avoir fait les atouts, on fait les désavantages. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque atout, vous nous donniez déjà le désavantage.
Bah, je fais un petit mix, mais j'essaie de tout doucement donner quelques indices sur les notes que je vais donner par la suite. Mais non, en tout cas, ça reste une ville connectée. Ça reste aussi une ville jeune. On a quand même 8000 étudiants, principalement sur l'université Sud-Bretagne. Et ça reste, je dirais, quand même une ville ou peut-être un marché de report, si on parle, on a bien parlé de profil d'investisseurs.
Ouais.
Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser à la Bretagne, qui pourquoi pas ont aussi une optique de saisonnier, puisque on peut typiquement...
Oui, c'est ça en fait. On n'est pas sur un investissement locatif traditionnel.
Non, alors on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque locatif, il n'est pas nul, mais en tout cas, ce sera loué. On a un rendement locatif qui est bon, puisque globalement, je parlais des prix à 3 800 € du mètre carré pour un appartement, un peu moins de 5 000 € pour une maison. En face, on a un loyer moyen de 11 € du mètre carré, ce qui fait que globalement, on est sur un rendement locatif de 5%. Donc c'est pas inintéressant. Et là, je retire le saisonnier, qui permettrait forcément d'aller atteindre un rendement plus important avec des risques de vacances et autres qui sont aussi plus importants.
Mais comme vous le disiez, comme il y a une part d'achat plaisir quand on va aller vers Vannes, est-ce que c'est pas effectivement le profil plutôt de la résidence secondaire que je vais essayer quand même de monétiser via de la location ponctuelle en saisonnier?
Et on est vraiment sur l'investissement et on en parle, et l'achat plaisir à Vannes, on y est. On le verra d'ailleurs en Tibes, on peut y être aussi, même si on va être sur des prix qui sont quand même un peu plus élevés, donc sur un profil d'investisseur aussi un peu différent. Mais en effet, on a, via les prix attractifs, on a quand même un investissement qui peut répondre en effet à ce côté plaisir, mais qui sera tout à fait aussi optimisé via du saisonnier.
On part à Antibes du coup ?
Pas tout de suite.
Non, je ne veux pas, je suis breton.
On va quand même terminer sur quelques projets, parce que je parlais de ce pôle d'échange multimodal qui devrait avoir le jour au niveau de la gare à Vannes d'ici fin 2024. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment la ZAC du Conlo, qui est un grand projet de réaménagement de 22 hectares dans lequel on va retrouver, et ça c'est assez habituel, une mixité sur du logement, du bureau, du commerce et espace vert. C'est un projet de 250 millions d'euros qui devrait démarrer l'année prochaine et s'achever en 2028. Donc ça c'est quand même positif. Il y a encore du nouveau logement qui arrive, et ça aujourd'hui il faut quand même le souligner. Le campus universitaire va aussi s'agrandir, et il y a également la valorisation du front de mer pour, je dirais, encore améliorer la qualité de vie des habitants. Donc il y a quand même des projets, je dirais, sympathiques. De là, est-ce que ça va augmenter la note? On le verra. Je ne sais pas si déjà vous avez quelques indices. Mais on va peut-être...
Moi, je suis sûr quand il gagne. Mais de toute façon, j'attends que vous me disiez quand on part pour Antibes, puisque visiblement, c'est quand vous voulez.
Antibes. On peut parler sur Antibes, qui est quand même le joyau méditerranéen. On va peut-être pas revenir un petit peu sur ces plages idylliques et sur le climat ensoleillé de la Méditerranée. Mais c'est vrai que...
Le festival de jazz.
Exactement. On a aussi le Ramatuel Festival avec des projections cinématiques ou musicales dans des magnifiques domaines entourés de vignes. Donc, voilà, je pense que Antibes est mondialement connu, puisque voilà, on a quand même une clientèle internationale assez développée et assez importante au niveau d'Antibes.
Et en nombre d'habitants, à chaque fois,
Alors, on était à un peu plus de 50 000 habitants sur Vannes. On va être légèrement inférieur à 80 000 habitants sur Antibes, donc c'est un peu plus important. On va avoir, certes, là aussi, un attrait touristique très fort. On est à 3 millions de visiteurs à Vannes, on est plutôt à 2 millions. C'est quand même assez important. Mais vraiment, avec une dimension peut-être plutôt internationale sur Antibes, à commencer par son port de renommée mondiale, puisque c'est le premier port de plaisance qui peut accueillir, je dirais, le plus grand nombre de places de super yachts. Donc là, on est vraiment plutôt sur le luxe. On va être vraiment sur des paysages et sur un format un peu différent. On va le retrouver aussi forcément sur
les prix.
Puisqu'on est sur un autre modèle finalement que Vannes. Mais il y a quand même.
C'est-à-dire, on est à combien des prix?
On est globalement à 6100 euros du mètre carré pour un appartement.
Ah ouais, quasiment le double sur les appartements.
Un petit peu moins du double, et on va dépasser les 7000 euros du mètre carré pour une maison. Ouais. En effet, on est vraiment sur un profil d'investisseur différent.
Sur cette géographie, en plus, les maisons, c'est des produits un petit peu plus rares.
Ce que je veux dire, c'est que là, l'appartement est encore accessible. Lorsqu'on parle de villa, je parlais de maison, mais de villa, notamment sur l'arrière-pays d'Antibes, c'est quasiment intouchable. Donc là, ça devient très compliqué. On est sur un marché un peu niche. Ça reste quand même une ville aussi dynamique, parce que j'évoquais, je dirais, les désavantages de Vannes, ou d'un point de vue économique, qui sont quand même limités. C'est pas péjoratif, mais
très dépendant
du tourisme. C'est un peu moins le cas quand même d'Antibes, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même je cherche le terme. Il y a et ça va arriver le fameux technopole Sophia Antipolis, le premier technopole d'Europe. C'est un peu moins de 40 000 salariés, c'est 2500 entreprises, donc c'est quand même assez important, et ça fait partie intégrante d'Antibes. Voilà, il y a quand même une structure économique un peu plus poussée, en tout cas un peu plus aboutie, si on parle d'Antibes, notamment avec le rayonnement de deux villes voisines. On a Cannes, on a Nice, on a l'Italie qui est aussi à côté, Monaco. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle jouit quand même d'une position géographique assez intéressante, assez importante, avec des prix certes, je dirais, élevés, mais ça va, je dirais, avec l'image et ce joyau de la Méditerranée.
Et des loyers tout autant élevés, on imagine.
Alors, loyers tout autant élevés, mais pas suffisants. On parlait d'un rendement moyen. Alors, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail de la typologie, etc. Mais un rendement moyen de 5% à Vannes. On est globalement entre 3,8 et 3,9%.
Ah ouais. Donc, on retombe quasiment sur des rendements dignes des grandes villes, des très grandes villes.
On est quasiment.
C'est un rendement de grande ville.
C'est un rendement de grande ville. Mais parce qu'on est sur des prix aussi, finalement, de grandes villes.
Très élevés. Et là aussi, on parlait du plafond de verre pour Vannes. On en est où sur les évolutions à Antibes? Est-ce qu'on a déjà beaucoup monté? Est-ce qu'on peut avoir des perspectives? Parce que typiquement, dans les très grandes villes, on dit souvent, c'est pas tant le rendement qui compte, c'est la perspective d'une éventuelle plus-value en sortie. On en est où du côté d'Antibes?
Ça dépend de la stratégie. C'est-à-dire qu'on peut se dire, finalement, je suis prêt à me mettre en risque vis-à-vis de la valeur de mon actif, même si à côté, en revanche, j'ai un rendement, en tout cas important. À l'inverse, on peut se dire, je suis prêt à acheter plus cher, perdre un peu en rendement, mais arriver sur une ville mature. Ça dépend un peu de la stratégie. Là, en termes d'évolution des prix, c'est forcément moins fort qu'à Vannes. On était à peu près à 26% d'augmentation des prix sur ces 5 dernières années pour un appartement. C'était un peu moins important pour une maison, plus 20%. Donc je ne pense pas, là, en revanche, qu'on soit arrivé sur un plafond de verre. Je pense qu'il y a encore de la marge, et on le voit notamment sur Nice, où les prix continuent encore de grimper.
Alors après, il y a aussi une typologie d'investisseurs. On a beaucoup dit à Nice que si les prix baissaient pas et augmentaient même encore malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est aussi surtout parce que les acheteurs locaux sont souvent plus âgés qu'ailleurs, donc ils ont moins recours au crédit et moins impactés du coup par la hausse des taux. C'est le cas aussi.
C'est le cas aussi à Antibes, et on est en fait sur une population, alors pas identique, mais en tout cas qui se ressemble énormément à celle niçoise. Ce qui est moins le cas à la Vannes, j'en ai pas parlé, mais on est sur une population très jeune.
Plus jeune.
29% de la population à moins de 35 ans. Donc on est aussi sur une typologie d'habitants qui va être un peu différente, et donc forcément on le retrouve sur le pouvoir d'achat et sur ce qui est possible de faire sur le parc immobilier. Et là aussi, Antibes peut tout à fait répondre à des besoins, notamment sur du saisonnier. On peut tout à fait trouver aussi l'achat
plaisir,
même si là, on va quand même s'orienter vers un ménage avec des moyens et un pouvoir d'achat.
Un gros achat plaisir,
plus important.
Et sur les étudiants, justement, parce que souvent, c'est un peu le curseur quand on veut se lancer dans un investissement locatif, la part d'étudiants est souvent rassurante sur certaines villes, en disant, de toute façon, je trouverai toujours un marché locatif.
C'est un peu l'image que tout investisseur a, c'est de se dire, je vise un studio, c'est étudiant, ça va fonctionner. Ce qui est vrai, mais parfois un peu faux. Là, on a une proportion d'étudiants qui est moins importante finalement qu'à Vannes. On va avoir retrouvé 5000 étudiants.
Ah, je suis étonné.
Ouais, 5000 étudiants sur une population globalement de 80 000. Donc, on a quand même un ratio qui est moins important. Donc, ça reste quand même une ville un peu plus mature, et j'entends de là les habitants, mais aussi la ville en elle-même, qui se repose sur son port, ses festivals, son dynamisme économique local au travers de la technopole, et puis voilà, la qualité de vie qu'on va retrouver au travers.
Il ne reste qu'une minute, Stéphane, il va falloir nous donner les notes. Antibes gagne, on est d'accord, c'est ça?
Antibes gagne, Vannes est juste derrière, mais on n'est pas non plus sur des très belles notes, on n'est pas sur des très bons élèves. C'est Antibes qui l'emporte avec une note de 11,6 sur 20.
On dirait moi.
Un élève moyen, on va dire.
C'est moi,
Élève moyen. Vannes est juste derrière avec une note de 11,10 sur 20. Je rectifie. Donc voilà, ça dépasse la moyenne. C'est un bon élève. Et je vous parlais un petit peu des éléments qui ont fait qu'on est quand même pas sur des très belles notes. Et on peut les citer. C'est que on est quand même sur deux villes, principalement Vannes, qui dépend principalement du tourisme. Là, la notion de prix, on arrive quand même sur des segments, en tout cas, assez hauts. On est sur des rendements locatifs qui sont en tout cas assez faibles. Antibes, un peu plus plus important à Vannes, mais on est quand même sur deux villes où principalement le saisonnier peut s'avérer intéressant. Voilà, tous ces éléments ont fait qu'on n'est pas non plus sur de très très bons élèves, mais ça reste intéressant. Il y a encore de belles opportunités.
Du coup,
soit Antibes et Vannes.
Primo investisseur plutôt Vannes, et puis investisseur confirmé plutôt Antibes.
Exactement. Et avec dans les deux cas quand même cette notion d'achat plaisir pour éventuellement profiter durant
location saisonnière.
Exactement.
Et rentabiliser le.
Voilà. Après méfiance tout de même avec la notion de réglementation. On est en plein dedans, même si pour le moment c'est gelé. Mais faire attention aussi, ne misez pas uniquement sa stratégie, uniquement sur du meublé saisonnier.
Mais d'où le principe, vous le répétez souvent, Stéphane, et tant mieux, voilà, ouais. Diversification. Bien et sûr, puis surtout, toujours. Là, vous parliez d'achat plaisir, donc il y a aussi l'usage. Voilà.
C'est aussi important, c'est partie non négligeable de l'intention d'achat. Marie Cœur de Roy, merci d'avoir été avec nous. Et Stéphane Briand, en charge du pôle immobilier chez Net Investissement.
Merci Antoine.
Merci.
Merci Marie, à très vite.
Bonne journée. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes dans Tout pour investir. On sera avec Romain Joudla pour répondre à vos questions. Il sera question de taux et de dynamique monétaire. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Allez, c'est le moment de l'émission Tout pour investir, où on se consacre à vos questions, à nos réponses, bien évidemment. Et on reçoit Romain Joudla, cofondateur de Colbert. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va parler taux, on va parler dynamique monétaire. Hein, c'est un des catalyseurs de marché du moment. Comment une baisse de taux pourrait rabattre les cartes de votre stratégie d'investissement? Alors, on va dire baisse de taux. C'est vrai que ces derniers temps, en plus, si on regarde l'actualité récente, elles se font un petit peu attendre. Ça a un peu commencé du côté de la BCE. Alors on voit, ça c'était l'ingrédient surprise, plutôt du côté de la Banque du Canada, de la Banque de Suisse, qu'il y a des baisses de taux. Mais concernant la Fed, celle qu'on attend le plus, ça se fait attendre.
Exactement, mais aujourd'hui on considère qu'il y a eu pas mal de fluctuations sur les anticipations de baisse des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Je ne vais pas rappeler, je crois que les plus ambitieuses étaient à 7 fois pour la Fed jusqu'à une fois aujourd'hui. Donc il est clair qu'on a eu aujourd'hui pas mal de fluctuations de ce côté-là, mais il nous semble qu'il y a des éléments aujourd'hui plus clairs et plus sûrs qui nous permettent raisonnablement de penser qu'on pourrait avoir une nouvelle donne de baisse des taux d'intérêt. En tout cas, qu'il faudrait la prendre en compte dans sa stratégie d'investissement, puisque ça touchera probablement les marchés obligataires certainement, mais les actions, mais aussi l'immobilier. Donc il faut avoir un avis, comprendre cette actualité, avoir un avis dessus pour pouvoir décider de sa politique d'investissement.
Bon, malheureusement, on a l'impression d'une sorte de fragmentation entre différentes zones géographiques. Mmh. C'est vrai que les États-Unis, ils hésitent toujours à enclencher la machine, tout simplement parce que l'économie, elle est encore archi-dynamique, que les dynamiques d'inflation, elles restent fortes, et que ils veulent pas finalement donner le signal général sans avoir des indicateurs vraiment très clairs et indiscutables finalement.
Oui, alors on a eu quand même des éléments un peu plus favorables dernièrement, comme le rapport d'inflation du mois de mai. On a eu une inflation sous-jacente qui est passée de 3,8 à 3,6 et qui, dans un monde où effectivement on est plus sur des anticipations à plus de 7 fois de baisse de taux sur l'année, mais plutôt à une fois voire deux fois, semble effectivement tout à fait cohérente. Donc les marchés d'ailleurs s'attendent à une baisse, une première baisse en septembre et une deuxième baisse potentiellement en décembre, et tout ça pourrait arriver dans un contexte où certains indicateurs macroéconomiques, au contraire, montrent un ralentissement aux États-Unis. Et puis tout ça dans un contexte quand même politique de réélection.
Totalement.
Où on n'a pas envie qu'un resserrement monétaire vienne gréver l'économie. Donc au contraire, on a aujourd'hui quelques signaux qui laissent penser qu'en tout cas pour au moins une, voire deux hausses de taux, le scénario nous semble un peu plus clair et raisonnable.
Alors pour l'Europe, on a toujours la même préoccupation, à savoir la lutte contre l'inflation. On a eu un premier signe encourageant de la part de la BCE. Maintenant, on sort d'élections européennes qui ont un peu rabattu les cartes, avec une montée des forces populistes, avec des équilibres politiques qui sont en train de complètement changer. Enfin, je pense notamment à la forte baisse de l'impact des Verts, que ce soit chez nous, que ce soit en Allemagne. On voit que c'est des classes politiques qui sont très très dynamiquement liées aux anticipations de politique monétaire et de politique économique de manière générale. Bon, là, le tableau est en train de se flouter alors qu'il paraissait plutôt claire hein, il y a quelques mois.
Elle est claire que l'environnement et le risque politique a très clairement changé un petit peu l'évolution des taux d'intérêt et la dynamique qui a été enclenchée par la BCE au mois de juin avec, je le rappelle, une baisse de 25 points de base qui était quand même une première depuis 5 ans. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut prendre en compte cet environnement politique. Cet environnement politique, si on prend un petit peu de recul, alors j'ai pas de boule de cristal, mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde du côté de nos voisins italiens, on a eu quand même des scénarios un peu équivalents. Période d'élection, à l'époque, on avait eu une hausse justement du spread jusqu'à à peu près 100 points de base pour revenir finalement à une situation assez normale, sans impact économique, au bout de 3 à 6 mois. Donc dans ce contexte, on pourrait raisonnablement penser finalement que entre la première baisse des taux de la BCE, les attentes de baisse de taux supplémentaires en septembre et en décembre, quand on interroge les économistes, ils sont quand même 80% à penser qu'effectivement on ira dans cette direction. On considère que ce risque politique pourrait renforcer en plus ces anticipations et inciter la BCE à agir davantage.
D'accord. Est-ce que le risque politique, c'est pas finalement l'arbre qui cache la forêt ?
Le risque politique, c'est vrai qu'on reste très concentré dessus, mais comme je le disais, si on prend un petit peu de hauteur aujourd'hui et qu'on regarde plutôt les dynamiques d'inflation, qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, l'indicateur central qui permet de diriger les politiques monétaires, on voit que finalement, on a eu la semaine dernière, certes, une baisse effectivement du taux de la Banque centrale suisse, mais on a eu également deux baisses en fait de l'indice des prix à la consommation. En Angleterre et également au Japon. Tout ça dans un contexte où aujourd'hui, on considère qu'en fait, les banques centrales souhaitent garder une certaine marge de manœuvre puisque le resserrement, on arrivera dans un environnement de resserrement budgétaire vraisemblablement. Et on a aussi d'autres banques centrales comme la Fed, on le disait en septembre, mais potentiellement aussi la Banque Centrale Européenne, anglaise, qui pourrait également baisser ses taux. Donc, dans cet environnement où finalement on est plutôt en haut de cycle de taux d'intérêt, on a des anticipations qui ont été plutôt pricées à la baisse, un risque politique. Est-ce que effectivement c'est pas le bon moment pour faire évoluer un petit peu sa stratégie et profiter de certains actifs comme par exemple l'obligataire ou certaines typologies sur le marché immobilier?
Alors justement, voilà, conséquences directes sur votre épargne. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire en fonction de tout ce qui est en train de s'inscrire dans les cours? Qu'est-ce que vous regardez, vous?
Alors, peut-être juste un petit peu de pédagogie sur l'incidence, effectivement, d'une baisse des taux d'intérêt très rapide. Donc, le taux d'intérêt, en fait, c'est ni plus ni moins que le coût de votre capital, le coût de l'argent.
Le loyer de l'argent.
Donc, voilà, vous allez emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier, ça vous coûtera plus cher si le taux monte et inversement. Et ça a un impact également sur les valorisations des entreprises, puisque les valorisations des entreprises, la plupart du temps, se valorisent en regardant en fait les revenus futurs qu'on additionne et qu'on actualise pour en connaître la valeur actuelle. Donc plus les taux sont bas, plus le dénominateur est faible et donc la valeur de l'entreprise reste importante. Donc de ce point de vue-là, on comprend bien que si on a un scénario de baisse des taux, on va avoir pour de nombreux actifs un phénomène de hausse de prix, en tout cas d'une manière théorique, et on aura d'autant plus un effet différencié sur certains secteurs et modèles économiques. Certains secteurs, par exemple, endettés, comme l'immobilier, qui en profiteront davantage, ou certains modèles économiques, où les revenus futurs sont encore plus futurs, comme par exemple les secteurs technologiques. Donc une fois qu'on sait ça, on peut se positionner dans l'univers des flashements et adapter sa stratégie.
Alors, quel type d'actifs précis ou de sociétés on peut privilégier en cas de baisse des taux, là, vraiment très concrètement?
Ouais, bien sûr. Alors, très concrètement, déjà, je pourrais peut-être différencier votre stratégie d'investissement en fonction, je dirais, de l'épargne de précaution et peut-être les investissements à plus moyen long terme. Sur l'épargne de précaution, il est clair qu'il va avoir un impact direct. Hein, en dehors du livret A, sur lequel on a un engagement jusqu'à 2025, on aura des livrets dont les taux vont baisser, donc la rémunération de votre cash va baisser. Donc, première question, est-ce que déjà, j'ai pas trop de cash sur mes livrets? Deuxième question, où est-ce que je peux les placer? Donc là, il y a des opportunités conjoncturelles, tactiques, puisque certains assureurs qui ont réinvesti en fait leurs fonds euros sur des nouvelles obligations dont les taux de rendement ont monté, aujourd'hui vous permettent sur 1 à 2 ans de profiter de taux de rendement plus élevés et en plus parfois avec des taux bonifiés vous permettant de rentrer sur des rendements supérieurs à 4 voire 4,5%. Voilà. Et de manière plus moyen long terme, là, en fonction de si vous êtes sur les marchés financiers, sur le private equity ou sur l'immobilier, il faudra pas du tout aborder ces classes d'actifs de la même manière.
Totalement, voilà, c'est ça. Et de quelle manière à ce moment-là on fait l'arbitrage ?
Alors, sur l'immobilier déjà, je pense que tout le monde l'a en tête, la hausse des taux a quand même notamment
légèrement refroidi le marché.
Légèrement refroidi le marché, et quand on regarde le marché de l'épargne, notamment les SCPI, les OPCI, qui sont très clairement les produits d'épargne les plus connus et qui représentent encore une fois 95% de l'immobilier commercial et non pas du résidentiel, hein. La baisse des taux, la seule baisse des taux ne sera pas le seul indicateur à regarder. On a connu l'évolution des usages avec le télétravail, on a connu le e-commerce qui a impacté également les centres commerciaux et le commerce de centre-ville, donc il faut regarder ces éléments-là. Donc attention, ne retournez pas massivement sur l'immobilier. Par contre, je considère à ce stade, ou en tout cas on considère chez Colbert, qu'il y a des opportunités, notamment sur l'immobilier de qualité, sur lesquelles on a eu des décotes peut-être trop importantes.
Ah,
les deux modes de détention en question, c'est d'une part des SCPI prime, donc il y en a très peu, qui ont de l'immobilier, notamment en plein Paris, sur lesquels, sur le marché secondaire, vous pouvez acheter un portefeuille que vous connaissez avec des décotes de 30 à 40%.
Ouais.
Et là, il y a un peu de volume parce qu'il y a des instits qui se séparent de leur position.
Ouais.
Le deuxième sujet, c'est l'immobilier coté. On a sur du bureau prime, certaines valeurs, sur des centres commerciaux ou encore sur du résidentiel allemand, là des très fortes décotes, pareil, de 30 à 40% avec des rendements élevés qui nous permettraient, en cas ne serait-ce que de stabilisation des valeurs d'expertise, liées à au moins la stagnation des taux, voire des premières baisses de taux généralisées, d'avoir une recovery assez importante.
Bon, est-ce que le market timing, puisque bon, on sait que c'est vraiment le timing et la détermination dans le temps de ce qu'on fait en termes d'investissement qui prime, est-ce que le moment, la fenêtre de tir est idéale en ce moment ? Ou est-ce que vous pensez que il y a peut-être moyen d'attendre encore un petit peu ou de s'ajuster légèrement?
Alors, le market timing me semble idéal sur certaines classes d'actifs. Typiquement, les modes de détention dont je viens de parler sur l'immobilier, ça me semble être un bon market timing. Sur l'obligataire, ça me semble être aussi un bon market timing sur certains segments.
Aujourd'hui, oui, j'allais vous dire, pas tout, là. Sur l'obligataire, il y a débat.
Exactement. Ouais. Et sur certains segments, on considère que même si on n'est pas sur les points les plus élevés de la courbe, on a des rendements qui sont aujourd'hui élevés, notamment sur des obligations d'État et de l'investment grade. Et si on ajuste un petit peu la duration en allant sur des durations moyennes ou un petit peu plus élevées, on pourra profiter à plein de cet engouement pour la baisse des taux, en ayant dans une situation inverse, ou en tout cas, on a un événement exogène qui survient, un potentiel de perte assez faible. Donc on considère que le marché obligataire sur des durations longues et des notations de qualité, on a des rendements aujourd'hui qui sont élevés et un potentiel de performance en capital qui est présent.
Ouais, selon vous, les rendements sont vraiment en haut de cycle là ?
Les rendements aujourd'hui prennent en compte quand même aujourd'hui tout un tas de scénarios. Alors ils prennent, comme je le disais en fait, d'une part un risque politique, ils prennent aussi en compte le fait qu'on a eu des anticipations de baisse de taux qui ont été largement revues à la baisse depuis le début de l'année. D'ailleurs, le marché obligataire a pas fait grand-chose depuis. Donc, il peut être raisonnablement intéressant de prendre position progressivement sur cette classe d'actifs en ajustant la duration régulièrement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.
D'accord. Alors, comment on intervient ? Comment on investit dans ce nouvel environnement ? Alors, suivant des stratégies qui peuvent être très, très disparates, qu'est-ce que vous recommandez là-dessus ?
Alors, autant on peut être opportuniste, comme je le disais, sur certaines typologies d'actifs, certains modes de détention, autant sur d'autres classes d'actifs, ou même l'épargne de précaution avec, effectivement, les taux bonifiés. On a également d'autres classes d'actifs, comme par exemple le private equity, où là, on construirait des positions, je dirais, plus sur le long terme, parce que le marché du private equity par exemple est déjà plus risqué et a subi de fortes baisses des transactions liées à la remontée des taux, et très clairement, même si l'environnement inverse va profiter à cette classe d'actifs, ça va se faire plus graduellement. Donc n'investissez pas massivement sur un portefeuille de private equity aujourd'hui, faites-le progressivement de manière intelligente en rentrant sur des vintages différents, progressivement, et surtout sur des fonds diversifiés.
Alors, sur les obligations, est-ce que c'est pas un petit peu la porte qui est en train de se refermer et c'est maintenant ou jamais ?
Bah, en tout cas, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On considère aujourd'hui, même si encore une fois, on peut rentrer peut-être sur des niveaux de valorisation plus élevés, que d'une part, c'est une classe d'actifs, alors déjà qu'on n'avait pas ces dernières années et qui est indispensable aujourd'hui dans la gestion des risques de son patrimoine, mais aussi dans la captation de rendement. Et sur les niveaux actuels, tant les niveaux de rendement en absolu qu'en relatif semblent intéressants, et dans cet environnement de baisse des taux, on en profitera. On peut raisonnablement penser que on pourra même avoir des baisses à des hausses à deux chiffres si on a une baisse des taux d'intérêt qui est significative.
Ok, l'immobilier, bon, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que il n'est pas temps de vraiment s'inscrire dans une optique de aller chercher la recovery, une forme de gestion value, comme on dit sur les actions, c'est-à-dire vraiment d'en profiter maintenant pour profiter d'une recovery?
Ouais, c'est un argument qui a été souvent avancé effectivement par de nombreuses sociétés de gestion qui créent des nouvelles SCPI et qui vont investir effectivement de l'argent frais sur le marché avec potentiellement des prix qui sont plus raisonnables. Moi, je considère, comme je le disais tout à l'heure, qu'il vaut mieux investir et privilégier en fait des patrimoines que l'on connaît et qui sont de qualité, encore une fois, pour de l'immobilier de bureau du prime, pour des commerces plutôt des commerces de qualité bien positionnés. Et sur le résidentiel, de toute façon, sur le marché, on n'est que sur du résidentiel allemand. Et là, pour le coup, l'environnement, la qualité de la classe d'actifs et son comment dire, son environnement, je dirais à long terme, laisse penser que effectivement, c'est une bonne opportunité. Mais attention, du coup, faites-le que sur les classes d'actifs et les modes de détention qui vous le permettent.
Oui. Voilà. C'est-à-dire de pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre et justement peut-être commencer à y aller via des SCPI, via des produits financiers indexés ou quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Et exactement, plutôt comme je le disais, les foncières en bourse ou alors des SCPI qui ont déjà constitué leur patrimoine. Attention, même s'il y a une prime de risque qui est valorisée dans des SCPI qui ont déjà baissé leur prix de part, etc., il faut attendre vraiment la stagnation des expertises pour s'assurer qu'on aura vraiment un arrêt des baisses des prix de part d'ici 2025.
D'accord. Les actions. Bah alors, on en parle et c'est vrai qu'on est un peu à l'heure des braves, hein, oui. Entre pas très loin des records absolus. Là, je pense à Bourse de Paris, Wall Street, on y est depuis un petit moment. Et puis, une forme d'instabilité politique et géostratégique, j'allais dire. On a un climat vraiment très, très curieux sur les actions. Du coup, vous vous positionnez comment ?
Alors, aujourd'hui, sur les actions, il est clair qu'après la hausse de ce début d'année, et qui tient compte d'ailleurs notamment de la baisse des taux de la BCE, et qui avait d'ailleurs anticipé ce phénomène, il est clair qu'on ne va pas mettre tout son patrimoine sur cette classe d'actifs. Néanmoins, il nous semble indispensable de rester positionné, et même, je dirais, de positionner d'une manière non pas neutre, mais supérieur pour avoir une exposition qui d'une part vous permette de bénéficier de cette classe d'actifs qui dans un scénario de baisse d'intérêt justement profite d'une revalorisation et par ailleurs de peut-être privilégier certains segments qui ont fortement baissé. On parlait des foncières cotées mais aussi les petites et les moyennes entreprises ont des très très fortes décotes et si on a justement une reprise des marges et des bénéfices sur ce segment, la baisse des taux pourrait être un catalyseur qui fera remonter ce marché.
Dernier aspect, on en parlait justement l'heure d'avant, l'opportunité d'investir dans le private equity. C'est vrai que c'est quelque chose de toujours plus populaire, hein, notamment chez les nouveaux investisseurs. Comment vous voyez la chose, vous ?
Alors, c'est pas fait pour tout le monde, hein, puisque effectivement, c'est vraiment une petite partie de l'épargne qui doit être investie à très long terme et qui est risquée. Néanmoins, aujourd'hui, dans cet environnement, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, si vous avez peu d'épargne long terme que vous pouvez mettre sur des placements risqués, allez plutôt sur des fonds diversifiés, comme je le disais. Et si vous avez la possibilité de construire un portefeuille plus large, là vous pouvez regarder d'une part les stratégies de secondaire qui profitent aujourd'hui en fait justement de décotes sur certaines participations ou des stratégies plus prudentes comme les infrastructures ou le parallèle lending sur la dette privée.
Merci beaucoup Romain Joudla, merci d'avoir été avec nous, cofondateur de Colbert.
Merci Antoine.
Merci et à une prochaine fois.
Un plaisir.
Nous sommes avec Amaury de Tonquédec. Alors on parlait de choses à investir en matière de diversification, peut-être de manière prudente, et on va évidemment parler des cryptos, hein, bien entendu. Alors je regardais là sur mon scope, on est à 61 000 hein, sur le Bitcoin, ouais, est bien remonté, mais alors là ça a été dur, là ces trois derniers jours, ça a plongé d'un coup. et on a bien du mal à s'en remettre, visiblement.
On est effectivement passé un même sous les 59 000 dollars brièvement hier.
De mémoire, le prochain support, c'est 56 000. C'est les plus bas de ces derniers mois, en fait.
C'est ça. Ouais. Bon, alors, on n'est pas sûr de les toucher encore. Mmh. Il y a tout un tas d'éléments qui pourraient nous faire penser, encore une fois, je parle au conditionnel, qu'on serait sur le point bas du mi-cycle. C'est-à-dire que là, justement, vous en parliez à l'instant avec Romain Joudelat, que faire, quelle stratégie adopter en cas de baisse des taux? On a une baisse des taux, en tout cas du côté de la Fed, qui devrait arriver une première en septembre et potentiellement une deuxième au mois de décembre. Évidemment, ça bénéficie ça aux actifs risqués, que sont les cryptos notamment. Donc, il y a cet événement positif qui devrait arriver. Il y a l'institutionnalisation du marché qui continue. On a les ETF Ethereum Spot qui devraient être listés là dans quelques jours, hein, au début du mois de juillet. On a les élections américaines qui, historiquement, sont positives pour ce marché-là. En plus, avec des cryptos qui n'ont jamais été aussi présentes politiquement. On voit que Donald Trump devient carrément un ambassadeur des cryptos. On voit même que Joe Biden, son équipe qui n'était pas très partante au départ, sont obligés de s'y mettre parce qu'ils voient que politiquement, ça rapporte, entre guillemets.
Chose, ouais.
Donc, voilà, là, il y a un marché qui est pessimiste, mais ça ne devrait pas durer, encore une fois, je parle au conditionnel, parce que les bonnes choses qui sont dans les cours, dans le marché, n'ont pas changé et devraient arriver dans les semaines à venir. En général, le marché repart 100 jours après le halving. Là, on est à bientôt 70 jours. Donc encore, a priori, que quelques semaines à attendre avant que ça reparte. Encore une fois, ceci n'est pas inconscient en investissement, mais a priori, on est sur un point d'entrée plutôt intéressant.
Mais oui, mais c'est vrai que si on regarde la courbe là qui est passée à l'antenne, là, on voit vraiment la cassure, la remontée. Est-ce que c'est le moment? 61 390 dollars pour le Bitcoin. Avec vous, BFM Business, avec vous dans quelques minutes.
Bonjour,
il y a Sandra Landois. Bonjour. De quoi parle-t-on?
Plein de questions sur la vie en entreprise, comme tous les jours. Par exemple, un salarié peut-il dire ce qu'il veut sur son entreprise en dehors de son temps de travail? On va poser la question à notre juriste Xavier Dulin. Comment gérer une ambiance toxique au travail? Je suis une femme sans enfant et je suis exclue des politiques d'égalité femmes-hommes. Comment je fais? Puis on va parler aussi de cybersécurité, de Jeux Olympiques, de management, de leadership et de toutes les questions que vous allez nous poser. Il y a une adresse à connaître avec vous à bfmbusiness.fr. On est là avec nos experts en direct jusqu'à 13h, Antoine.
Et on vous retrouve là dans un instant avec Sophia Naclouf. Merci d'avoir été à l'écoute de Tout pour investir. Demain, vous retrouverez Lorraine Goumeau. Et en attendant, on va écouter Julie Cohen-Horton et ses placements verts. Comment s'y retrouver à travers la myriade de labels et de normes d'investissement vert? C'était il y a quelques semaines au sein de Tout pour investir. Écoutez-la.
Tout pour investir sur BFM Business.